VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manirakis, qui est en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, édition du 23 mai 2017. D'abord le sommaire. Un Africain pour la première fois à la tête de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus vient d'être élu nouveau directeur général. À Boaké, en Côte d'Ivoire, le mouvement des ex-rebelles démobilisés a tourné en drame. Trois morts pendant l'intervention des forces de sécurité au Mali. Une nouvelle attaque dans le nord a tué deux casques bleus en Grande-Bretagne. L'État islamique a revendiqué l'attentat de Manchester qui a fait 22 morts à la sortie d'un concert. Et au Moyen-Orient, le président américain a appelé Israéliens et Palestiniens à prendre des décisions difficiles pour la paix. Votre rendez-vous de l'économie et des sports à suivre après votre journal. Je vous le disais dans les titres, un nouveau directeur général à la tête de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, depuis sa création. Bagassi Koura, c'est la première fois qu'un Africain occupe ce poste.
Oui, il s'agit de l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, âgé de 52 ans. Il a battu au troisième tour le Britannique David Nabarro par 133 voix contre 50 et 2 abstentions. 185 pays ont pris part au vote à Genève ensuite. En Suisse, Dr Tedros, qui a été activement soutenu par les pays africains, est un ancien ministre éthiopien de la Santé et des Affaires étrangères. Il est connu pour avoir réduit de façon significative le taux de mortalité lié au sida, au paludisme et à la tuberculose en Éthiopie lorsqu'il était ministre de la Santé entre 2005 et 2012. Il a été élu face au Britannique David Nabarro et la Pakistanaise Sania Nishtar.
Merci Bagassi pour ce portrait. En Côte d'Ivoire, la fronde des ex-rebelles démobilisés à Boaké ne faiblit pas, mais l'intervention des forces de l'ordre pour dégager l'entrée sud de cette ville a tourné au vinaigre. Le bilan est de 3 morts dans les rangs des manifestants, tandis que 3 gendarmes et 2 policiers ont été blessés par des projectiles. Le gouvernement accuse les démobilisés d'être responsables des morts à Boaké, n'est-ce pas Narita Namasté?
Ces affrontements se sont déroulés au corridor sud de Boaké, assiégé depuis lundi par des ex-combattants qui réclament le paiement de primes à l'instar d'un contingent de 8400 ex-combattants réintégrés dans l'armée après la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. 3 personnes ont été tuées lors de cet affrontement à Boaké, entre policiers et ex-rebelles démobilisés qui bloquaient l'entrée de la ville. Dans un communiqué rendu public, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité indique que certains des manifestants armés ont découpillé une grenade offensive qui a explosé en leur sein. Le bilan officiel selon le gouvernement fait état de 3 personnes tuées suite à des éclats de fragments de grenades et 14 blessés dont 4 cas graves. Aussi, l'on enregistre du côté des forces de l'ordre 3 éléments de la gendarmerie et 2 éléments de la police qui ont été blessés par des projectiles. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Et le ministère de l'Éducation nationale a enregistré plus de 4000 cas de grossesse précoce en milieu scolaire en 2017. Abidjan déplore un fléau préoccupant et persistant. Une patrouille de la force de l'ONU tendu en embuscade dans le nord-est du Mali, près de la frontière algérienne. De casques bleus sont tombés sur le champ. Cette attaque s'ajoute à une vague de violence qui a ciblé sans distinction les populations civiles, les forces armées maliennes et les forces internationales. Les précisions avec Kassim Traoré.
Aguel-Oc redevient la zone des terroristes parce qu'ils contrôlent toutes les routes principales de cette localité dans laquelle ils appliquent la loi islamique ou charia. Illustration, la lapidation il y a 2 semaines d'un couple. C'est pour cela que la patrouille pédestre de la MINUSMA n'a pu échapper à l'embuscade tendue vers 6h du matin à 5 km d'Aguel-Oc dans la région de Kidal. Dans cette énième attaque, 2 casques bleus ont été tués et un blessé. La MINUSMA a aussitôt envoyé une force d'intervention rapide sur les lieux de l'attaque et procédé à l'évacuation du blessé et des défunts. Cette attaque, selon la force onusienne, s'ajoute à une vague de violence qui, au cours des dernières semaines, a ciblé sans distinction les populations civiles, les forces armées maliennes et les forces internationales. Il faut signaler que le Tchad est la seule force étrangère qui a perdu plus de soldats au Mali depuis le début de l'opération Serval en 2013. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
À Niamey, Ali Idrissa, l'une des figures de la société civile et de l'opposition, a à nouveau été interrogé hier, mais laissé libre. Il avait été interpellé pendant plusieurs heures samedi. Il est poursuivi pour incitation à la révolte. Un gazoduc a explosé dans le sud-est du Nigeria. Cette région a connu de nombreuses attaques au cours de l'année dernière, menées par des groupes armés. Et dans la page justice, les députés de l'État de Kano ont suspendu une enquête parlementaire ouverte contre leur émir, une des figures traditionnelles les plus influentes du pays. Ils ont ainsi mis fin à des accusations d'abus de biens sociaux qui auraient pu lui coûter sa statue royale. En RDC, le député Clément Kankou, il est de l'opposition, il est visé par une enquête du parquet à Kinshasa sur l'implication présumée dans les violences qui s'écoulent depuis septembre la région du Kassai au centre du pays. Le procureur Florica Bangé-Numbi pourrait lever son immunité parlementaire si sa responsabilité était engagée.
Un journal américain, le New York Times, affirmait que l'experte des Nations Unies, Zaïda Catalan, assassiné au mois de mars dernier avec son collègue américain Michael Schaap, détenait un enregistrement sonore d'un député national, l'honorable Clément Kankou, en conversation téléphonique avec l'un des présumés auteurs matériels des actes déplorés dans le Kassai. Voilà pourquoi, ce lundi 22 mai 2017, j'ai été amené à ouvrir une enquête pour en savoir un peu plus. J'ai donc adressé ce même lundi une lettre au président de l'Assemblée nationale pour me permettre de conduire des indispensables enquêtes dans cette sinistre affaire.
Cet enregistrement remonte à août 2016 et circule sur Internet. En Tunisie, des milliers de personnes en colère ont afflué aujourd'hui pour assister aux funérailles du manifestant tué hier. L'incident s'est produit lors d'affrontements avec les forces de l'ordre à proximité d'un complexe pétrolier près de Tataouine, dans le sud du pays en ébullition. Les autorités ont mis en garde contre un dérapage de la situation. Arrestation en Égypte d'un ancien candidat à la présidentielle et avocat des droits de l'homme. Khaled Ali est suspecté d'avoir créé un parti politique non enregistré. Le parquet a ordonné sa détention pour 24 heures. Principal avocat à soutenir une procédure judiciaire contre le gouvernement, il a défié le régime d'Abdel Fattah al-Sissi pour avoir accepté la rétrocession de deux îles à l'Arabie saoudite.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat de Manchester. Au moins 22 personnes sont mortes et 59 blessées, dont plusieurs enfants. C'était hier soir à l'issue d'un concert d'Ariana Grande dans la bouillonnante métropole du nord de l'Angleterre. Nathalie Barge.
AMAC, l'agence de propagande du groupe ultra-radical, a revendiqué l'attaque sur les réseaux sociaux. La puissante explosion a eu lieu à l'une des entrées de la Manchester Arena, une salle d'une capacité de 21 000 personnes, à la fin du concert de la jeune chanteuse américaine Ariana Grande. Des milliers d'adolescents et d'enfants ont fui les lieux dans la panique. Selon la police, l'auteur de l'attaque est mort en faisant détonner un engin explosif. L'attentat a eu lieu 2 mois après celui de Londres qui avait fait 5 morts. Un homme avait foncé dans la foule avec un véhicule et poignardé un policier avant d'être abattu près du Parlement. Cette attaque avait été également revendiquée par le groupe État islamique qui menace de lancer d'autres attaques.
Nathalie Barge, l'acteur britannique Roger Moore n'est plus. Il est décédé aujourd'hui en Suisse à l'âge de 89 ans des suites d'un cancer. Roger Moore est connu dans la série télévisée Le Saint et par cette James Bond. Pour les étrangers, il était l'archétype du gentleman anglais. Le président américain Donald Trump est arrivé ce soir à Rome, en Italie, pour une rencontre avec le pape. Un peu plus tôt dans la journée, il avait appelé Israéliens et Palestiniens à prendre des décisions difficiles pour la paix sans préciser Comment y s'y prendre? Le point avec Idriss Fall.
Donald Trump a rencontré lundi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Puis ce mardi, il a été reçu par le président palestinien Mahmoud Abbas à Bethléem, en Cisjordanie occupée. M. Abbas lui a de nouveau exposé de vive voix le rêve palestinien d'un État indépendant ayant pour capitale Jérusalem-Est et vivant aux côtés de l'État d'Israël dans la sécurité et la paix. M. Trump a déclaré que les deux parties feront face à des décisions difficiles, ajoutant qu'avec la détermination et les compromis, que la paix est possible. M. Trump s'est gardé d'évoquer la solution dite à deux États. Il ne s'est pas prononcé non plus sur des questions concrètes comme les colonies juives, les frontières ou le statut de Jérusalem, encore moins sur sa promesse de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il a simplement assuré qu'il fera tout son possible pour aider Israéliens et Palestiniens à faire la paix qui n'est pas au rendez-vous depuis 70 ans.
C'était votre journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La chronique de la Muniteco signée John Lindon.
La Banque africaine de développement et le Japon ont signé un nouvel accord de 300 millions de dollars pour renforcer le secteur privé en Afrique. Ce financement porte à 1,5 milliard les engagements du Japon aux côtés de la BAD. En 2016, à Nairobi, au Kenya, l'Empire du Soleil Levant s'est engagé à injecter jusqu'à 3 milliards pour le développement du secteur privé africain. Le Nigeria a reçu un prêt de 500 millions de dollars dans le cadre du programme d'investissement social. Ce financement accordé par la Banque mondiale sera remboursé sur 3 ans. Sur une population de plus de 180 millions, environ 53 millions de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté. L'Allemagne a une nouvelle fois mis la pression sur le Zimbabwe pour verser des indemnités aux fermiers allemands dépossédés de leurs terres à la suite de la réforme agraire de Robert Mugabe. Mais Harare évoque des difficultés financières pour prouver sa bonne foi. En 2000, le gouvernement a saisi en 3 ans 90% des terres appartenant à la minorité blanche du pays pour corriger les inégalités dans l'accès aux terres agricoles.
Et sans transition, nous enchaînons avec les sports. Nicolas Pinault, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Historique pour la Guinée à la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans en Corée du Sud.
Les jeunes du Sili National ont fait match nul un partout face à l'Angleterre. C'est le premier point décroché par le pays dans l'histoire de la compétition. La Guinée qui lave la défaite infligée par le pays organisateur, la Corée du Sud, 3-0 lors du premier match. Les Sud-Coréens qui battent l'Argentine de 2-1, match nul 0-0 entre le Mexique et l'Allemagne. Et le carton de la journée, les Vénézuéliens ont giflé le Vanuatu 7-0. À suivre demain, côté africain, la Zambie qui affronte l'Iran et l'Afrique du Sud contre l'Italie.
Et l'UEFA se veut rassurante pour la finale Manchester United-Ajax d'Amsterdam malgré l'attentat de Manchester, Nico.
Oui, la finale de l'Europa League aura lieu demain à Stockholm. Elle s'annonçait comme une belle fête sportive. Elle a pris une autre tonalité après l'attentat meurtrier qui a touché la ville mancunienne. L'UEFA s'est déclarée sous le choc après l'attentat, mais s'est voulue rassurante à la veille de cette finale. Il n'existe actuellement aucun renseignement spécifique qui pourrait suggérer que l'une des activités de la finale à Stockholm puisse être la cible d'attaque, a ajouté l'instance européenne du football. Quant aux joueurs de Manchester United, ils ont tenu à faire une minute de silence dans leur centre d'entraînement ce mardi matin. Avant de s'envoler pour la Suède, il devrait arborer un brassard noir sur le terrain demain soir. Quant au coach de Manchester United, José Mourinho, il a confié sur Twitter que ses joueurs étaient très tristes après les événements tragiques de la nuit dernière. Mais dans un autre tweet, il a souligné qu'il y avait un travail à faire, c'est-à-dire jouer la finale de l'Europa League et l'emporter.
Enfin, la NBA, finale de la Conférence Ouest, Golden a déjà gagné après 4 matchs.
Ah oui, il n'y a pas eu de suspense. Les Golden State Warriors, les champions NBA 2015, se sont qualifiés pour leur 3e finale consécutive après leur victoire contre San Antonio, 129-115. Les Warriors, menés par Stephen Curry, auteur de 36 points, et Kevin Durant, auteur de 29 points, ont remporté la finale de la Conférence Ouest 4-0. Golden State préserve ainsi son invincibilité depuis le début de ses playoffs. Les Cavaliers de Cleveland, qui mènent 2-1 face aux Celtics de Boston, auront la possibilité de faire le break ce soir lors du 4e match qu'ils joueront dans leur salle.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakidze, en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington pour aborder la seconde partie de votre édition. Première destination, la ville du cuivre en RDC, c'est Lubumbashi. Et depuis plus d'une semaine, le trois quarts de cette ville du sud-est du géant des Grands Lacs connaît une pénurie en eau potable. La Régie des Eaux, société en charge de fournir l'eau et l'électricité, ne donne pas d'explication claire. Narval Mabila a les détails.
Il y a presque une semaine.
On va chercher par-ci, par-là, quand on va trouver. Puis il y a de l'eau en plus. D'ailleurs, je vois que là-bas, il n'y a pas d'eau. Faut qu'on parle là-bas encore.
On cherche pas. Oui, on paye. Je regrette beaucoup parce qu'on paye. Par jour, il faut dépenser 500 francs. Il faut payer encore. Pour amener ça à la maison, il faut encore payer.
On est en train d'observer toujours les bidons jaunes ici, par-ci, par-là, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Et surtout que nous sommes pendant la période de la saison sèche où il y a différentes maladies d'ordre sanitaire qui peuvent surgir, et telles que les choléra. Et comme nous le savons tous, Kamalondo, Kenya sont les bassins de ces fléaux-là. Alors nous demandons un peu à nos autorités de voir un peu ces problèmes.
Ceux-ci sont des témoignages de choses qui ont vécu plus d'une semaine sans qu'une goutte d'eau potable ne coule au robinet de la Régie des Eaux, fournisseur exclusif en eau potable, qui n'a donné aucune explication à ses abonnés face à cette pénurie qui a touché les trois quarts de la ville de Lubumbashi. Nous avons contacté la direction provinciale de la Régie des Eaux pour les explications face à cette pénurie où le directeur a refusé tout commentaire et nous a renvoyé à la Société nationale d'électricité et nous a demandé de nous référer à un communiqué de presse publié à peine. Du côté de la société civile, la situation est très préoccupante, nous dit Maître Kaloua, président de la société civile du Haut-Katanga.
Nous, en tant que société civile, c'est pour nous une préoccupation du fait que l'eau en soi constitue un besoin fondamental de la communauté. C'est un droit, on doit avoir l'eau et c'est lié à la vie même de la personne. Alors, quand il y a par exemple interruption de fourniture d'eau, comme nous venons de le constater, qui est observé depuis maintenant quelques jours, c'est-à-dire depuis ce mardi, ça devient pour nous une préoccupation très, 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 très fondamentale en tant que société civile. Et ça nous préoccupe au plus haut niveau parce que nous estimons que ça a des répercussions directement sur la santé de l'être humain, de la population, car sans l'eau, il n'y a pas la vie. Donc nous déplorons aussi en tant que société civile et profitons de cette occasion pour demander aux autorités d'intervenir afin que la situation puisse être rétablie parce que si tel n'est pas le cas, il y aura de répercussions terribles sur la santé, notamment il peut y avoir de maladies diarrhéiques.
Malgré les promesses de rétablissement en fourniture d'eau potable, la situation semble ne pas être stable, comme nous dit une habitante de la commune de Kamalondo.
Depuis qu'il y avait coupure d'eau, la fourniture d'eau n'est pas stable. On peut avoir de l'eau, même 2 heures du temps, ça repart, ça revient, on peut avoir de l'eau même 3 heures du temps. Mais comme aujourd'hui, le lundi, c'est depuis le matin qu'on n'a pas de l'eau au robinet jusqu'à 7 heures.
Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Situation similaire de l'autre côté du fleuve Congo. Pénurie incessante d'eau potable dans les quartiers de Brazzaville. Dans leur quotidien, les populations sont obligées de plier à 4 pour trouver ces tors blancs. Pour y faire face, les autorités ont annoncé la réforme au sein de la Société nationale de distribution d'eau, SNDE, en déficit chronique. Dans Brazzaville, la correspondance est signée Nguela Ngusu.
L'eau potable est devenue une denrée rare dans les quartiers de Brazzaville. Il faut attendre tard dans l'année pour voir couler le liquide vital. Dans les quartiers périphériques comme un filou, les populations vont s'abreuver dans les marigots et les sources.
On parcourt des grandes distances telles qu'à Mambou là-bas. À Mambou, il y a un peu des sources naturelles pour aller puiser de l'eau, pour aller laver des habits. Bon, c'est pas potable, c'est pas traité. Ça coule seulement à l'air libre. Ça fait beaucoup de difficultés. Vu le nombre que nous sommes dans le quartier, c'est un peu difficile.
Bon, les questions d'eau dans le quartier, c'est un colonel qui nous a soulagés quand même. Il nous a mis un forage que la population de cette zone se ravitaille pour l'eau.
L'eau, c'est encore un casse-tête. Le jour où vous savez qu'il y a de l'eau, c'est quand ça coule hasardeusement dans la rue. C'est plutôt les fuites d'eau que nous déplorons.
À Batignolles, non loin de l'aéroport international de Mayamaya, où il y a un imposant château d'eau, les forages sont la solution. Mais les consommateurs doivent débourser de l'argent.
On va dans les forages, il y a beaucoup de forages ici. Ah, quoi faire si on n'a pas l'argent? Comme l'eau, c'est l'autre, là, c'est la vie. On est obligé de payer.
Pour Mermous Babunga de l'Observatoire congolais des droits du consommateur, la qualité de l'eau servie par la société nationale, la SNDE, laisse à désirer.
On ne peut pas concevoir qu'une eau qui puisse traîner des débris et des têtards ne puisse pas avoir des problèmes de potabilité. Sur la fréquence, généralement, parfois, tout le bimestre, ils ne reçoivent l'eau que pendant 2, 3, 4 jours, vers la période où la SN2 s'organise à venir distribuer les quittances. On dit aux consommateurs de ne pas payer, parce qu'on ne paye que la prestation qui a été fournie et qu'on a consommé.
L'État investit pourtant énormément dans la production et la distribution d'eau potable. Deux usines fonctionnent correctement à Brazzaville. Des efforts encore très insuffisants, reconnaît le Premier ministre Clément Mwamba, qui appelle rapidement aux réformes.
Il y a toujours un déficit de l'offre, c'est-à-dire la quantité d'eau qui est offerte est insuffisante par rapport à la demande. Donc ça, c'est un problème. Ce mode de gouvernance doit être changé dans les meilleurs délais. C'est terminer le discours de la plainte. Il s'agit d'aller aux mesures.
Les organisations de la société civile, elles, attendent le gouvernement au tournant. Trésor Nzilakende, acteur de la bonne gouvernance.
Bon, il faut parfois être optimiste. Il est de la responsabilité du Premier ministre d'engager des vraies réformes. Et il fait une annonce, alors on l'attend sur le terrain, on voudrait bien voir ces réformes. Il ne faut pas que ça soit un effet médiatique pour distraire les gens, mais et le moment viendra où on fera l'évaluation. Mais la société civile souhaite vraiment que le Premier ministre aille jusqu'au bout de la logique.
Dans les villages, un programme eau pour tous qui a coûté 194 milliards à l'État doit encore montrer son impact. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VO Afrique.
Salut, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous rappeler de ne pas manquer Le Monde au féminin à 19h, temps universel sur VO Afrique. Le docteur Sona Konaté, experte en santé publique, directrice médicale de Seal of Hope, sera notre invité pour parler de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, à savoir quels progrès ont été réalisés en Afrique ces dernières années et comment améliorer les conditions des femmes enceintes et de leurs enfants afin de leur permettre de rester en vie. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis à 19h, temps universel en direct sur la page Facebook de VOA Afrique et en rediffusion le samedi à la même heure. À tout à l'heure.
Au Tchad, le Conseil de la communication a suspendu pour 3 mois la carte d'identité du journaliste professionnel. Pour cet organe de régulation chargé de garantir la liberté de l'information et de la communication, la carte est détenue de façon illégale et anarchique par des personnes qui n'ont rien à voir avec ce métier. Notre correspondant sur place, André Kodmajingar, a recueilli la réaction des organisations professionnelles des médias. Suivez son reportage.
Tchad, le métier du journaliste est devenu un refuge pour tous ceux qui ont échoué ailleurs. Il suffit d'écrire un article publié dans un journal ou d'être un stagiaire dans une station radio ou télévision ou encore d'être un chauffeur d'une entreprise de presse. Ça y est, on a droit à une carte de journaliste professionnel.
La carte de journaliste est devenue banale au Tchad. Aujourd'hui, vous pouvez trouver cette carte avec des gens qui n'ont rien à voir avec la profession, des gens qui font des renseignements généraux, etc. Et cela est une grave menace pour le professionnalisme dans notre pays.
Célestin Toponan, vice-président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias au Tchad. Pour lui, il faut appliquer l'article 5 de la loi 17 du 31 août 2010 relative au régime de la presse au Tchad.
Il est dit dans ces textes que ne peut être considéré comme journaliste professionnel quelqu'un qui travaille effectivement dans un organe de presse, audiovisuel ou presse écrite, et qui vit essentiellement de cette activité. Et nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le personnel administratif n'est pas journaliste. Le personnel technique n'est pas journaliste. Les plantons, les chauffeurs, beaucoup de ces personnels détiennent la carte du journaliste professionnel. Il faudrait que, à ce niveau-là, les professionnels eux-mêmes acceptent qu'on puisse assainir leur secteur.
Pour le président de l'Union des journalistes tchadiens Belngar Larmé à la guerre, si les personnes étrangères au métier détiennent la carte d'identité du journaliste professionnel, cela relève de la responsabilité de la commission chargée de la délivrance de ce document logé au sein du ICC.
Et cette commission qui délivre en fonction des critères bien définis. Nous ne comprenons pas par quel miracle certaines personnes étrangères au corps détiennent cette carte. Mais si déjà, au niveau de cette institution, Les gens sont réveillés pour dire, écoutez, il y a un problème et qu'il faut revoir. Je crois que c'est un début de solution que nous devons tous nous en accaparer pour mettre pression et orienter les actions pour amener les journalistes à travailler dans les normes.
Le premier rapporteur du Haut Conseil de la communication, Lauro Gondier, indexe plutôt les chefs d'entreprise de presse d'être à l'origine de ce désordre.
Ceux qui dressent la liste des journalistes, leur rédaction pour envoyer. Si c'est par mégarde, ils insèrent des noms des gens qui ne sont pas du corps, je crois que c'est de leur responsabilité. Nous voulons tout simplement assainir le milieu et en le faisant, je crois que c'est de bonne guerre.
Le secrétaire général de l'AEPT, Association des éditeurs de la presse privée du Tchad, Samoury Ngaradoumé, reconnaît qu'il y a des brebis galeuses, qu'il faut les extraire le plus rapidement possible.
Si le HEC reconnaît qu'il y a des rédactions qui ont remis des noms qui ne sont pas en règle avec nos principes et qu'ils ont eu à déceler cette machination, vraiment c'est salutaire pour nous.
André Kodmadingar Ndjamena pour VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Retour sur l'attentat terroriste de Manchester qui a fait 22 morts et 59 blessés. La communauté africaine de Manchester se dit tout aussi choquée, mais certains craignent d'éventuelles représailles. Jacques Aristide a joint l'administrateur du site Congo Manchester, établi dans la deuxième ville britannique depuis 17 ans. Damien Malumalu se trouvait dans les environs de cette attaque suicide hier soir. Suivez.
En tout cas, c'était la peur et la désolation. J'étais personnellement désorienté, je ne savais pas où aller. J'essayais de contacter des amis parce que je savais qu'il y a mes proches amis qui se sont rendus au concert pour savoir ce qui s'est passé, mais personne ne pouvait prendre le téléphone. Donc la seule solution pour savoir, c'était aller dans les médias, mais malheureusement, l'information n'était pas là. Donc c'était la peur et la panique générale. Moi-même, j'étais trop paniqué parce que j'étais au parage vers 21h.
L'attentat a été perpétré à l'occasion d'un concert de la pop star américaine Ariana Grande. Le terroriste a-t-il délibérément visé des enfants sans défense?
Je crois que c'est exactement parce qu'il savait bien que c'était les enfants qui étaient pleins dans la salle, donc il savait qu'ils sont les enfants qui seront victimes.
Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué l'attentat. Pensez-vous que personne n'est à l'abri des atrocités de ce groupe?
Je crois que c'est difficile d'être à l'abri, vu que Manchester, l'Angleterre, c'est un pays cosmopolitain où tous nous vivons ensemble et tout le monde est bien accueilli. La police n'est pas armée, donc c'est difficile d'être à l'abri parce que nous vivons ensemble. Ce n'est que l'effort communautaire qui peut un peu décourager le groupe, mais c'est vraiment la panique générale, si je peux le dire.
Theresa May et son rival travailliste Jeremy Corbyn ont suspendu leur campagne en vue des législatives du 8 juin, qui a pour enjeu le Brexit. Cette attaque aura-t-elle un impact?
Bien sûr, des sondages derniers montrent que Jeremy Corbyn, qui était un peu à l'écart, donc la victoire était déjà réclamée du côté de Theresa May. Mais avec ce qui s'est passé, que la sécurité du pays est encore mise en question, je crois qu'il y aura un impact très important aux élections. Sans vous le cacher, d'autres gens déjà commencent à parler du revanche. Il y a déjà une sorte de xénophobie chez certaines personnes. Jusque-là, on est sous le choc, mais d'un moment ou à l'autre, on ne sait pas le sentiment des citoyens. Ils peuvent rejeter les étrangers.
Comment réagit la communauté africaine de Manchester?
La communauté africaine de Manchester est dans un...
C'était Damien Malumalu, administrateur du site Congo Manchester, qui était en ligne en Angleterre. Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin, à la console, Zainab Abdelrahman, à la présentation, Eric Manirakiza. Je vous retrouve à 19h30 pour la troisième et dernière édition de la soirée. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. À tout à l'heure.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.